Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et réalisation, mon vieux complice Léo et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, aujourd'hui parmi nous, Monsieur Henri Santiago Sanz, qui vient de publier avec deux autres complices le travail de rue dans une belle maison d'édition RS. Monsieur Santiago Sanz, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup, Monsieur Astenza.
Le travail de rue est une constellation du travail social. On y retrouve où l'on traite la question du logement, la santé, l'éducatif, la grande précarité, les gens qui ont faim, réellement. Vous dites dans cet ouvrage, avec vos deux co-auteurs, qu'il faut aller vers les usagers, donc les bénéficiaires, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la rue. Et ouais. Le travail de la rue est terrible. La grande précarité, ou les précaires, comme on dit, ne vivent pas vieux. Ouais. On retrouve des mineurs, des femmes, seules, avec des enfants. On rencontre des personnes ayant des problèmes psychiatriques. On rencontre aussi les problématiques d'addiction. Mais avant de démarrer notre conversation, Monsieur Santiago Sanz, vous avez démarré votre carrière, pourrait-on dire, de travailleur social, comme éducateur spécialisé, en psychiatrie, ensuite en centre de demandeurs d'asile, CADA. Vous avez été également formateur à l'Institut de travail social Erasme, je crois plus de 12 ans. Et c'est l'heure de transmettre, d'écrire, de passer la bonne parole aux futurs professionnels. Monsieur Santiago Sanz, comment est née l'idée de ce livre, Le travail de rue ?
Ah, ça, c'est un petit peu, comment dire, c'est à la conjonction de plusieurs choses. C'est-à-dire que, pour ma part, comme vous venez de le dire, j'ai beaucoup travaillé dans des secteurs dans lesquels il y avait des questions relatives à la très grande précarité sociale, en fait. Les gens qui étaient en CADA, pour autant qu'ils étaient logés, sont des gens qui vivent avec une allocation d'attente qui leur laisse extrêmement peu de ressources. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait de la grande précarité. Mais avant de travailler au CADA, j'avais aussi travaillé dans un service de tutelle aux prestations sociales adultes, avec beaucoup de personnes psychiatrisées, et c'est là que j'ai rencontré des gens qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, ne vivaient pratiquement pas dans le domicile précaire qui leur était attribué, et que je rencontrais parfois sur un trottoir, ainsi de suite. Donc ça a été pour moi, un petit peu, dans ma période d'éducateur, le moment où j'ai vraiment touché du doigt comment on pouvait vivre des situations sociales extrêmes. Hein, ça a été ça, surtout. Hein. Voilà. Donc, moi, ça, c'est mon parcours. Ensuite, lorsque je suis devenu formateur, comme j'ai toujours quand même eu, pour des raisons un peu professionnelles, mais aussi personnelles, eu comme centre d'intérêt la question des très grandes précarités sociales et la question des troubles psychiques, quand j'ai été formateur, j'ai monté des modules, simplement. Hein, et puis, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes pour qu'ils viennent partager avec les étudiants éducateurs spécialisés ces questions-là, qui sont des questions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, extrêmement graves. Hein. Mes deux complices ont fait un parcours un peu similaire. Hein. François Chaubeau était quand même l'animateur du réseau Jeunes en errance pendant de très très longues années, et Jean-Luc Marchal aussi a beaucoup travaillé avec des personnes à la rue. Voilà pourquoi on s'est intéressés tous les trois à ça. Mais pourquoi tous les trois ? Parce que nous sommes tous les trois dans le comité de rédaction d'une revue qui s'appelle Vie sociale et traitement, qu'on appelle VST, qui est la revue des CMEA, et qu'à un moment donné, on s'est sentis, tous les trois, de monter un dossier dans VST sur le travail de rue. Et on a eu la surprise de voir arriver énormément de textes. On avait sollicité...
Donc vous avez demandé un appel à contribution.
Un appel à contribution, Et comme François Chaubeau avait pas mal de complicité aussi dans d'autres pays que la France, on a reçu des textes d'un peu partout, on n'a pas pu tous les mettre dans le dossier.
Ça veut dire qu'il y aura peut-être un deuxième volume.
Je ne sais pas. Vous me dites ça, mais je vais en profiter pour le dire de suite. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un deuxième, un troisième et un quatrième volume.
Parce que vous le dites, d'ailleurs, à l'introduction, Santiago Sanz, peu d'ouvrages récents traitent du travail de rue. Il y a peu de contributions intellectuelles. On pense peu le travail de rue, quoi.
Voilà. Alors, je pense que les équipes le pensent. Les équipes écrivent des articles, par exemple, ou même font des textes de plaidoyer, par exemple, assez souvent. Mais on a eu la surprise de voir que depuis Sergesco 2005, il n'y avait pas eu de tentative de bouquin qui parle du travail de rue. Esco avait écrit un truc très toulousain. Et ensuite, on a eu beau chercher, on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui fait que les gens qui s'intéressent à ces questions-là et qui les travaillent intellectuellement et pratiquement ne produisent pas. Donc nous, on s'est dit, on va produire un texte. Moi, j'en appellerai presque à tous ces gens-là de continuer, hein, de prendre la main et de pouvoir construire le volume 2, 3, 4, 5, 6, qui me semble être nécessaire pour que la situation évolue et que les choses avancent.
Alors, le travail de rue, vous dites dans votre introduction, démarre en France dans les années 50.
Oui,
c'est sourcé, comme on dit, c'est documenté, maraudes, c'est ça. Les maraudes démarrent dans les années 50.
Oui, alors il y a toujours eu des associations caritatives qui venaient, on pense à l'Armée du Salut ou des choses comme ça, apporter la soupe, ce qui est extrêmement important pour des personnes qui n'ont plus rien. Mais la structuration du travail de rue en travail social, elle s'est faite institutionnellement avec la prévention spécialisée qui s'est intéressée à une catégorie particulière de la population, les jeunes délinquants.
Les jeunes délinquants.
Mais moi, je pense aussi beaucoup à un auteur qui me passionne, qui est Fernand de Ligny, et qui, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, a monté une expérience qui s'appelle la Grande Cordée. C'est-à-dire que comme il y avait énormément d'enfants errants dans les rues, qui étaient orphelins, qui étaient sans racines, qui n'avaient plus d'enracinement social, il a créé un mouvement où il a essayé de les rassembler, de les placer avec des petits patrons, que ce soit en ville, mais surtout à la campagne, créer des réseaux. Et tout ça, finalement, ça a abouti sur le fait que des institutions, puisque le travail social en France est monté à partir de la bonne volonté d'institutions, souvent loi 1901, à but non lucratif, tout ça c'est devenu une espèce de réseau informel qui ensuite s'est institutionnalisé, a été pérennisé, voilà. Et donc le travail de rue est né dans les années 50, dans ces conditions-là à peu près.
Et il y a un autre auteur et acteur qui a marqué les maraudes, c'est Xavier Emmanuelli, vous en parlez. Alors là, c'est le SAMU social.
Voilà.
Il a donné quand même une impulsion. Il faut lui rendre hommage, parce qu'il avait été aussi beaucoup critiqué à une époque. Son passage au gouvernement, pourrait-on dire, comme acteur, n'a pas été une réussite. Mais là, il faut lui rendre hommage.
Pour être très clair, pour que je dise vraiment ce que j'en pense, c'est vrai que la présence de Xavier Emmanuelli dans un gouvernement qui n'était pas particulièrement enclin à l'intérêt pour les populations les plus démunies et au travail social était curieux. Mais en tout cas, dans sa pratique de médecin intéressé aux populations les plus fragiles, la création du SAMU social a été un tournant. Parce qu'effectivement, c'est ça qui a permis de faire en sorte qu'on mette des maraudes qui sont devenues maintenant, par exemple, les équipes mobiles sociales de santé qui pratiquent à la fois l'accompagnement social le plus précis pour des situations très individuelles, mais aussi des soins. Et comme on le dit dans le bouquin, d'ailleurs, qui en viennent même maintenant, par défaut, bien sûr, à faire des soins même dans la rue.
Oui, tout à fait. Vous en parlez, on verra les nombreux articles. Alors, dans les articles et les expériences que vous présentez, vous parlez de la Catalogne et notamment de Gérone. On va s'arrêter quelques instants. du Québec, du Mali, du Bénin. Donc, oui. Le travail social, on voit bien qu'il est international, hein, pourrait-on oui. dire. L'expérience de Catalogne, de Gérone, cette belle ville de Gérone, oui. est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là ? Parce que c'est assez singulier comme activité.
Oui, tout à fait. Déjà, sur le principe d'avoir recours à l'international, on aurait pu s'en passer, sincèrement. On aurait pu trouver de quoi parler, de tout ce qui se passe sur notre territoire, bien sûr. Mais, et c'est François Chaubeau qui a mis un petit peu l'accent là-dessus, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de se décentrer un peu. Hein. On avait des choses européennes, comme Grim Tiffany, par exemple, qui nous parle de ce qui s'est passé en Angleterre à partir du Covid, et qui pensait, lui, à ce moment-là, en tout cas, que ça pouvait remanier un certain nombre de principes de travail. Mais ensuite, on avait aussi des complices qui sont plutôt aussi du côté de la pensée que l'on dit occidentale, bien qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais avec Robert Bastien qui nous parle du Québec. Mais François disait, ce serait peut-être intéressant d'aller voir aussi si dans d'autres cultures, avec d'autres modèles, hein, que l'on dit parfois plus traditionnels, comme le Bénin, hein, par exemple, on puisse se décentrer un peu de nos vieilles habitudes, ce qui nous permettrait de constater s'il y a des choses qui sont universelles, une tendance à pratiquer un petit peu de la même manière, à penser les choses un peu de la même manière, mais aussi des pratiques singulières. Moi, parce que j'avais eu l'occasion de monter des séances de formation croisée avec la Catalogne, j'ai fait appel à de vieux complices de l'université de Gérone pour leur dire qu'ils sont, eux, très, très impliqués dans...
Oui, parce que le travail, la formation de travailleurs sociaux en Espagne, c'est l'université qui la gère directement.
Exactement.
Hein. Ce c'est sont bien dire... des bacs plus 3 et des masters, d'ailleurs.
Et des masters, bien sûr.
Hein. Un éducateur spécialisé espagnol suit toutes les disciplines académiques qui arrivent au master, c'est ça, de travailleur social.
Quoi. Oui, en Catalogne, on ne va pas y passer trop de temps, mais en Catalogne, tous les diplômes de niveau 4, comme on dit en France, c'est-à-dire ceux qui correspondent à anciennement les AMP, les aides médico-psychologiques, les moniteurs éducateurs, sont dans les collèges et lycées professionnels, hein, et ensuite tout le reste, comme vous venez de le dire, c'est l'université. Hein. Les diplômes de niveau 2, c'est 4 ans de formation ou 5 ans de formation pour les travailleurs sociaux, pour les éducateurs sociaux, les équivalents assistants sociaux et éducateurs spécialisés chez nous.
Alors, restons quand même encore un peu à Gérone.
Oui.
C'est particulier, il n'y a pas d'association de type loi 1901 français, mais c'est beaucoup de fondations.
Voilà.
C'est des congrégations également.
Voilà.
Et c'est aussi... pourrait-on dire, la puissance publique qui gère également tout ce travail. Et Gérone est assez singulier parce que j'ai découvert qu'il y avait un métier particulier, le livre en espagnol, on verra s'il y a une traduction, le métier de zelador. Zelador, c'est particulier ce métier, il n'existe pas en France, ça veut dire quoi?
Oui, moi je n'en ai pas rencontré de zelador, je les ai rencontrés donc à l'occasion de l'écriture de cet article, ce qui fait que je suis allé voir. En fait, c'est des personnes qui sont un petit peu entre aide-soignants, aide médico-psychologique. En fait, lorsqu'une personne arrive dans une institution ou même dans un hôpital, dans une clinique socio-sanitaire, comme il y en a beaucoup là-bas, ils peuvent être accueillis, accompagnés, les premiers gestes du prendre soin par ces zeladors. Voilà. Donc, c'est un métier un peu particulier. Peut-être qu'en France, on le retrouverait du côté des aides-soignants, mais c'est pas tout à fait la même sphère d'intervention.
Et également, à travers cet article et cette expérience de Gérone, on voit bien que la police, vous avez dit, coopère avec les travailleurs sociaux.
Tout à fait. On a une particularité.
Il y a des liens assez intéressants. Ben, souvent, la relation de travailleurs sociaux, je ne dis pas qu'il y a un clivage, mais la relation n'est pas simple. Travailleurs sociaux, police, là, on pourrait dire que la police oriente, pourrait-on dire, et informe les travailleurs sociaux en disant, attention, dans tel endroit, peut-être faut-il y aller, il y a quelqu'un qui est en grande difficulté, grande précarité, quoi.
Oui, ça peut paraître surprenant parce que nous n'avons pas ces habitudes de travail en coordination avec la police, en France. Hein. Bon. Je pense que ça ne s'est pas arrangé sur ces dernières décennies, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de clivage. La police s'occupant de la question de l'autorité, la relation d'autorité, Alors que le travail social s'occupe de la question de la réhabilitation sociale, le prendre soin, ainsi de suite. À Gironde, voilà, on peut être surpris de voir que la police fait partie de la grande coordination. Ils participent aux réunions de tous ces acteurs du travail social et ils y prennent leur part. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire aussi, ce sont des personnes qui, dans l'exploration de leur territoire, lorsqu'ils repèrent qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a pas été repéré, qui passe sous les radars, comme on dit, du travail social, ils vont voir les institutions sociales qui sont chargées du travail de rue.
Et pour tenter d'apporter une réponse.
Voilà, tenter de simplement les mettre en lien avec ces gens-là. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus souple que on pourrait espérer retrouver ici, et que pour le moment on n'a pas en tout cas.
Également, on sort de Gironde et on va partir dans un article assez intéressant également sur le statut et place et rôle des bénévoles et des professionnels. Ouais. Alors là, les maraudes et le travail de rue, il est particulier parce qu'il y a beaucoup de bénévoles.
Oui.
Qui s'engage.
Tout à fait.
Parce qu'il y a quelque chose, il y a de la lumière, il y a un certain humanisme qui se dégage. Mais c'est vrai que la place du professionnel et du bénévole, c'est particulier. Alors, qu'est-ce que vous avez observé à travers les articles et les contributions ?
Pour parler de la question du bénévolat, nous avons donné la parole à Aldo Panizza, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à Montauban et qui travaillait dans une institution privée. Il ne le dit pas, donc je ne dis pas laquelle, dans une institution privée, et qui, lui, avait simplement une sensibilité à la question sociale, puisque très vite, il s'était investi dans les Restos du Cœur. Il était parti en Afrique faire une mission humanitaire aussi, voilà. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que le bénévole, il a une sensibilité pour le travail social. C'est quelqu'un qui a de l'empathie, c'est quelqu'un qui a de la générosité, de la bienveillance. Mais après, il faut travailler après. Il faut y aller, quoi. Et c'est pas simple. Parce que parfois, la générosité ne suffit pas. Il faut trouver la bonne posture, la bonne distance ou la juste proximité, comme on commence à dire.
Parce que ça peut être violent, le travail dans la rue.
C'est très violent.
Y compris dans l'approche de ces personnes.
C'est très violent. Quand je dis il vaudrait mieux dire ça peut être très violent.
Ça peut être
violent. Ça peut être très violent. Il y a des groupes qui sont constitués, des groupes qui ont perdu les habiletés sociales, qui ont perdu la relation sociale spontanée de proximité avec d'autres personnes que leur groupe, qui sont souvent pris dans des pratiques addictives très très fortes, qui ont parfois des comportements féroces aussi. Donc il faut s'en approcher. Et ça c'est compliqué. Ça on le voit un petit peu dans le chapitre de l'Allée Verte aussi. Comment s'en approcher? Comment finalement se faire adopter par un groupe de personnes? Comment accepter un certain nombre de choses? Partager un morceau de chocolat? Accepter un certain type de toucher? Comment peut-être même, comme on dit dans le chapitre Allée Verte, savoir décapsuler une bouteille de bière sans avoir de décapsuleur? Ce sont des formules qui disent que tout le travail d'approche est compliqué. Les professionnels sont censés l'apprendre en formation et dans leur pratique. Pour les bénévoles, c'est plus difficile. Pour le moment, ils n'ont pas encore de formation. Dans le chapitre formation, nous disons qu'ils mériteraient une formation.
Ils mériteraient une formation. Ou en tout cas un passage par les instituts de formation.
Exactement.
Pour donner des compétences. Mais cela veut dire également qu'il faudrait donner un statut aux bénévoles. Ce qui manque cruellement dans notre pays, d'ailleurs.
Oui, je pense, oui. Après, quel statut? Moi, je
quel
sais
statut
pas.
Aux bénévoles?
Voilà. Quel statut? On peut laisser la question ouverte pour voir comment tout le monde pourrait réfléchir à cette situation-là. Mais ce que nous dit bien Aldo, c'est que quand il vient faire du bénévolat, on lui demande parfois, parce qu'il a des compétences professionnelles dans son activité privée, d'accompagner en fonction de cette expérience-là. Il dit non, moi, je veux pas. Il dit, moi, ce que je veux, c'est venir vivre autre chose que ce que je vis
dans mon activité,
dans laquelle on me dit, vous devez avoir des résultats, vous devez, sur un temps court, réussir ceci, alors que le travail avec les personnes dans la rue demande du temps long, demande une efficience particulière, vous voyez, et une relation aussi humaine, c'est pas une relation de guichet, par exemple. Et donc, lui, il vient avec cette intention-là, et petit à petit, il la prend au fur et à mesure, au contact de ces personnes fragilisées qui, et il est quand même toujours accompagné par des professionnels qui, à un moment donné, vont donner un conseil, hein, partager un certain nombre de réflexions pour l'aider à finalement à construire sa pratique. Hein. Mais finalement, comme on le fait nous-mêmes, hein, en tant que professionnels, construire à partir du terrain. C'est bien ce que nous dit Bastien, d'ailleurs, dans le chapitre formation. Il dit, on peut théoriser tout ce qu'on veut. Ce style de travail-là, particulièrement, il s'apprend toujours dans la rue, au contact des gens.
Au contact, à travers une expérience toujours singulière. À plusieurs reprises, vous dites ce concept et cette pratique du « aller vers ».
Ouais.
Ça apparaît à quel moment dans le travail social, le « aller vers » ? Aujourd'hui, on en parle fréquemment, on l'a théorisé, on forme les jeunes éducateurs à cette question du « aller vers ». Récemment, le commissaire à la pauvreté dans la région parle beaucoup du « aller vers », le grand précariat. Ça veut dire quoi, le « aller vers » et quelle est cette pratique?
Oui.
Est-ce qu'on a tout résolu en disant « on va aller vers » ?
Non, bien sûr
non. On n'a pas résolu tout ça.
Bien sûr que non. Alors, c'est toujours pareil, vous savez, avec la naissance d'un mot nouveau, des fois, on a l'impression qu'on va réinventer le fil à couper le beurre. Mais des fois, c'est quand même important de le remettre sur le devant de la scène parce qu'on pourrait avoir tendance à l'oublier un petit peu. Le « aller vers » en fait partie. Hein, vous savez, et c'est fait. Et alors, on le date de quand ? Moi, je sais plus trop parce que le temps passe vite. Ça a au moins une bonne dizaine d'années. Actuellement, c'est devenu un petit peu une ancienne. Là, on le met un petit peu à toutes les sauces. Le risque des jolis mots, c'est qu'ils soient mis à toutes les sauces et que des fois, on ne sache plus très bien de quoi on parle. Hein. Comme quand on parle de bonnes pratiques, quand on parle de bien-traitance ou de choses comme ça. Il faut toujours savoir quel est le système de valeurs qui soutient le mot nouveau.
Qui soutient le mot « aller vers ».
Voilà. Alors, l'aller vers, c'est très simple. Et pour les personnes qui sont à la rue, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on est travailleur social ou même travailleur du sanitaire et qu'on travaille avec des personnes qui sont en institution ou qui sont suivies dans des services avec une certaine facilité parce que on travaille intramuros, hein, et donc on peut tout mettre en œuvre à l'intérieur des murs, même si souvent on en sort pour aller faire des choses à l'extérieur.
Bien entendu, quoi.
Mais les gens qui sont à la rue sont totalement désinsérés par rapport à ce dispositif.
D'ailleurs, ils ont des droits, ils les réclament même pas.
Ah oui, voilà. Ils les réclament pas, soit parce qu'ils les connaissent pas, soit parce que finalement ils sont ailleurs, ils sont dans une espèce d'ailleurs psychique qui font que ça les intéresse plus, soit même parce que les institutions qui devraient les soutenir dans la récupération de leurs droits sont parfois des institutions ou des professions qui sont excluantes. Hein. Je pense beaucoup à ces médecins généralistes qui supportent très très mal d'avoir quelqu'un qui sent pas bon dans sa file active, dans sa salle d'attente, vous voyez, hein, et qui refusent de prendre des gens qui sont au RSA, par exemple, ou qui ont ce qu'on appelle la C2S maintenant.
Voilà.
Hein. Donc, il y a des tas de raisons qui font ça. Donc, on est obligé d'aller vers. Pourquoi ? Parce que sinon, ces gens-là ne viendront pas vers les gens qui peuvent leur donner soutien social ou qui peuvent leur donner soutien sanitaire. Donc, aller les rencontrer, partir un peu fureter dans les rues, aller voir qu'est-ce qu'il y a sous un carton, dans un recoin de rue, sous un porche, est une obligation dans ce style de travail.
Voilà. Et alors, vous abordez les questions de santé.
Ouais,
donc,
ouais.
On soigne des équipes dites mobiles, le aller vers, des soignants, ouais. Et on soigne les gens à même le sol. C'est ça, aujourd'hui,
ouais,
la pratique.
Oui. Ça, c'est très récent, par contre, vous voyez. Très, très récent. La question du soin somatique dans la rue est très récent. Parce qu'il y a quelques années, moi, quand je...
Ça ressemble quasiment à de l'humanitaire.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il y a une
espèce de tuilage entre la question humanitaire et caritative et le travail de prendre soin et le travail social. Hein. À un moment, on pourrait penser qu'il y a une confusion entre les deux. En fait, je pense que c'est une attitude complémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que les soins somatiques qui sont pratiqués le sont par des professionnels. Hein, c'est pas l'armée du salut qui va soigner, hein. ce sont des gens du CHU, par exemple, hein, qui décident de partir avec une petite mallette pour aller prendre la tension, soigner, remettre un pansement, mais proposer aussi des tas d'autres choses, hein, bon, que je ne détaillerai pas ici.
Et s'il y a d'autres pathologies, est-ce que ce professionnel peut inviter la personne en grande précarité à la rue, il vaut mieux qu'on vous hospitalise. Oui. On force pas la main, mais on donne les conseils, quoi, parce que c'est très difficile de les intégrer dans un circuit.
Oui. C'est son ambition première. Hein.
C'est son ambition première.
Oui, parce que son ambition première, comme je disais, il soigne dans la rue par défaut. Son ambition première, c'est de réussir à faire en sorte que la personne accepte de rejoindre le service dans lequel il va être soigné dans les meilleures conditions possibles. Soigner dans la rue, c'est quand même quelque chose de très, très compliqué, très aléatoire. Hein. Il n'y a pas d'asepsie, par exemple. Voilà. Alors là, on voit que l'équipe d'Angoulême dont on parle le font avec un camping-car. Et je trouve que c'est une excellente idée. C'est un lieu intermédiaire, on va dire. Hein. Intermédiaire entre le lieu hospitalier aseptisé et le trottoir, hein, lui-même, qui l'est pas du tout. Donc, mais c'est, encore une fois, c'est de l'aller vers, c'est-à-dire y aller, commencer quelque chose pour montrer que la personne peut être soignée, hein, et puis ensuite, petit à petit, dans le travail de relation qui s'instaure au long cours, hein, eh bien, on peut convaincre la personne, et on peut même l'accompagner physiquement, de rejoindre le service adéquat.
Bon, avant d'aller plus loin avec vous, M. Santiago Sanz, le travail de rue, je vous propose une pause musicale avec Brigitte Fontaine.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés, les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, toujours avec Henri Santiago Sanz, deux autres co-auteurs, Le Travail de rue, dans une belle maison d'édition RS. Je reviens sur les sans-abri, Monsieur Santiago Sanz, où l'Europe fait une classification, hein, donc des catégories. Et c'est intéressant parce que, vraiment, il y a des sans-abri. Il y a des personnes sans logement. Alors, c'est pas la même chose. Hein. Et il y a des personnes qui ont un logement précaire. Et puis ensuite, il y a des personnes qui ont des logements inadéquats. Et ainsi de suite.
Oui.
Alors, et tout cela, c'est aussi du travail de rue.
Oui, alors
dans en quelque sorte, quand
dans
même,
la classification européenne.
Dans la classification européenne.
Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'il a fallu essayer de savoir, essayer d'être clair. Quand on parle de travail de rue, de quoi parle-t-on, en fait, hein? Est-ce qu'on parle uniquement de ceux qui vivent en permanence sur un trottoir, sous un Porsche, hein? Ou est-ce qu'on parle aussi de ceux qui, parfois, appellent le 115, vont dans un CHRS d'urgence pour y passer une nuit, deux nuits, trois nuits? Est-ce qu'on parle de ceux qui ont un logement, mais un logement qui est tellement délabré que parfois ils n'y dorment même pas, de manière permanente, ou d'autres qui vont vivre sous une yourte, hein, vous voyez, sous un arbre? Donc, l'Europe a voulu, on va dire, faire une définition large du travail de rue, dans laquelle on peut trouver des gens qui ont un toit au-dessus de leur tête, mais c'est un toit extrêmement précaire et qui vivent dans des conditions de très, très grande précarité sociale. Vous aurez remarqué que dans ce livre, on ne parle pas beaucoup de cette deuxième catégorie. On parle beaucoup des gens qui sont vraiment à la rue ou qui, au pire, parfois, vont dormir dans des squats ou des logements comme ça, très, très désadaptés.
Un autre article fort intéressant, travailler avec les femmes. Ouais. Voilà, travailler les femmes. Alors, femmes seules ou femmes avec enfants, ça complique la donne pour le travail social, parce que là, la protection de l'enfant s'en mêle. Il faut mettre à l'abri les enfants. Oui. Comment on travaille avec les femmes?
Oh ben là, les travailleurs ou travailleuses de rue, parce que parfois ce sont des équipes non mixtes qui par choix vont à la rencontre des femmes seules avec enfants. Ben, si vous voulez, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait déjà sur les questions de la santé ambulatoire. C'est-à-dire que on va approcher les personnes et on va essayer d'avoir un véritable travail de conviction pour les aider à rejoindre les centres d'hébergement pour femmes avec enfants, hein. Voilà, hein. Parce que, effectivement, l'ASE s'en mêle, comme vous dites, on ne peut pas laisser les enfants à la rue.
L'aide sociale à l'enfance, c'est ça?
Oui, oui, voilà. Oui, oui, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, s'en mêle, et donc, on va prononcer un placement dans un centre d'hébergement. Alors, comme toujours, il peut y avoir
J'imagine que
les femmes qui échappent
à ça et qui ne veulent pas que les enfants...
Elles ne veulent pas, elles passent sous les radars, ben oui. Elles fuient et elles vont continuer à vivre autant de temps qu'il leur sera possible avant de se faire peut-être rattraper par les services sociaux dans la marginalité, parce que parfois certaines ont même des parcours qui font que il leur est difficile de réintégrer des lieux d'habitation, hein, voilà. Donc ça, c'est très très compliqué, hein, voilà.
Et il y a des pathologies aussi particulières pour ces femmes.
Oui, oui, oui.
Donc
oui.
Le travail de santé doit être très 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 difficile.
Absolument. Oui.
Une autre activité du travail de rue qui est apparue au moment du Covid, ouais, ça a été les étudiants. Beaucoup d'étudiants précaires.
Oui.
Et alors là, vous travaillez, donc il a fallu aller vers aussi les étudiants, quoi.
Oui, oui, oui,
là,
oui.
On a vécu un moment, pourrait-on dire, de grande précarité pour une population qui était sur le fil du rasoir et qui a basculé.
Oui. Tout à fait, oui, oui. Vous voyez, dans l'article sur l'Aller Vert, où on fait parler les gens de Toulouse, hein, de la boutique Solidarité de l'association ARPAD, pendant le Covid, ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient l'habitude de fréquenter leur lieu, qui est un lieu d'accueil à très bas seuil d'exigence, hein, la boutique Solidarité, ne venaient plus. Il a fallu qu'ils se joignent un peu aux maraudes déjà existantes pour aller voir ce qui devenait. Ils ont inventé, c'est pour ça que c'est le titre du chapitre, les maraudes à bicyclette. Et lors de ces maraudes à bicyclette, ils se sont rendus compte que ils rencontraient des gens qui étaient à la rue et qui échappaient à la classification traditionnelle des gens qui sont à la rue. Les gens grands précaires, qui ont des troubles psychiques, qui ont eu des problèmes sociaux tels qu'ils n'ont pas, ils ont lâché la rampe, comme on dit. Ils n'ont pas pu continuer à vivre avec un boulot, ainsi de suite. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des auto-entrepreneurs, qu'il y avait des étudiants qui, tout à coup, pendant le Covid, se trouvaient en situation de très, très grande précarité. Et il a fallu travailler avec eux, un petit peu de la même manière qu'on travaille avec les personnes qui ont 5, 10, 15 ans de rue, qui sont au bord du syndrome d'auto-exclusion dont parle Jean Furtos, vous voyez. Et ce sont des gens qui, quand même, psychiquement, étaient suffisamment à flot, j'ai envie de dire.
Dans une situation, pourrait-on dire, classique,
voilà,
ou à peu près normale.
Mais qui, socialement, étaient totalement à l'abandon. Hein. Et donc, qui venaient parfois à leur rencontre en leur disant « je n'ai rien, Je sais bien que je ne fais pas partie des catégories de personnes qui normalement devraient solliciter votre aide, mais j'en suis là. Voilà. Et on se rend compte à ce moment-là combien nous avons une certaine catégorie sociale dans notre pays qui est sur le fil du rasoir.
Qui peut très vite basculer.
Exactement.
Dans la pauvreté, voilà. Ou voire même la grande précarité.
Voilà,
c'est un système qui fonctionne, des salaires peut-être, alors quand je dis des salaires, quasiment indécents, quoi, parfois. Mmh. Et donc là, ça bascule, bascule assez vite.
Et là, j'en profite, si vous voulez, pour dire quelque chose que l'on dit aussi de temps en temps, enfin, un petit peu, qui apparaît dans certains articles de ce livre, c'est que il y a une dimension politique dans le travail de rue, de toute évidence. C'est-à-dire que on traite les personnes qui sont à la rue, mais je disais qu'il y avait parfois des activités de plaidoyer. Toutes ces équipes qui essayent de donner un coup de main à ces gens-là qui sont très désinsérés sont extrêmement soucieuses de voir qu'il y en a davantage tous les jours, davantage dans la rue.
Votre expérience de travailleur social dans la rue et de formateur, est-ce que vous pensez que les fédérations, les grandes fédérations qui travaillent à fabriquer du plaidoyer avec le verbe haut pour dire à la puissance publique il faut s'améliorer, vous pensez que c'est reconnu ou il faut les titiller un peu pour que...
Il faut les titiller.
Ce n'est pas une activité qui est très, très reconnue, pourrait-on dire.
Il faut forcer le passage.
Sur le travail de rue.
Oui. Parce que
On parle volontiers du social, du médico-social, mais alors là, parler de la rue...
Oui, il faut être clair. On est dans un pays où il y a un travail social. Hein. Il existe, il a été construit dans l'après-guerre. Mais il y a quand même une tendance, surtout depuis les années néolibérales, à un abandon des grandes solidarités collectives, ainsi de suite. Et donc, il faut leur forcer un peu la main, il faut leur forcer le passage pour faire reconnaître, par exemple, le travail communautaire ou la santé communautaire, pour essayer de faire en sorte d'essayer de contrarier cette grande exclusion généralisée. Et vraiment, nous sommes très nombreux à penser que... il faudrait s'attaquer aux grandes inégalités sociales pour espérer qu'un jour, il y ait de moins en moins de personnes qui sont à la rue avant tout, avant de compenser cet échec social, finalement.
Mais vous le dites quand même, hein, dans un article à page 222, le travail social de rue, un concept flottant, vous le mettrez entre guillemets, mais c'est peut-être pour ça que c'est difficile de construire un plaidoyer, que c'est les penseurs dits du social, ou tous ceux et celles qui sont les militants pour une société plus juste et solidaire, ont du mal à écrire ça.
Oui, en même temps, c'est un concept flottant aussi pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on dit travail de rue, de quoi on parle, hein? Est-ce qu'on parle des gens qui sont tous à la rue? Est-ce qu'on parle des gens qui sont en très très grande précarité sociale? Et puis, un concept flottant, pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le travail de rue? Est-ce que c'est juste apporter la soupe à quelqu'un et puis retourner à la maison? Ou est-ce que c'est aller crier au bas des ministères que c'est scandaleux qu'une société aussi riche que la nôtre puisse mettre les gens, mettre une telle quantité de personnes à la rue? Vous voyez, donc de quoi parle-t-on? Quel est le système de valeurs qui sous-tend le travail de rue? En fait, on pourrait presque dire les travails de rue.
Hein,
les travails de rue, hein, on pourrait dire, parce que celui de médecin du monde va pas être celui de l'équipe mobile sociale de santé, mais ils sont très très proches, hein, ou celui de l'armée du salut va pas être le même. Les Restos du Cœur font pas le même travail que la casse de santé. Quand la casse de santé va à la rencontre des populations, vous voyez.
Mais vous ne faites pas une distinction. Vous dites
non.
Toutes ces actions sont nécessaires pour pouvoir extirper quelqu'un de la rue, quoi.
Tout à fait.
Parce que l'objectif, c'est ça, quoi.
Voilà.
Faire en sorte qu'on puisse, en effet, l'insérer au maximum et qu'il trouve sa place, quoi.
Oui. On aurait besoin d'une espèce de grande fédération de personnes qui complémentent leurs actions, qui sont des actions différentes. Dans l'article sur de la boutique Solidarité, ils disent bien que eux, ils vont à la rencontre des gens et ils se présentent juste pour dire bonjour. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Ils ont même une petite blague. Ils disent que parfois, quand ils vont à la rencontre de personnes qui sont à la rue, les gens les regardent en rigolant et disent tiens, la maraude qui sert à rien. Hein? Et c'est une blague, parce qu'une maraude qui sert à rien est une maraude qui, paradoxalement, sert énormément. C'est-à-dire qu'elle est là pour juste servir à ce que les personnes vont construire dans sa pratique. Ce sont les gens qui vont construire la pratique de la maraude.
D'ailleurs, vous le dites, hein, on le dit. Observer, voilà. Soulager, orienter.
Voilà.
C'est ça le travail
tout
aussi
fait.
De rue. Quoi.
C'est tout à fait ça. Donc, on a besoin de toutes ces dimensions, de gens qui vont apporter des bouteilles d'eau, de gens qui vont apporter du pansement, de gens qui vont proposer un accompagnement psychique, de gens qui vont vouloir orienter, de gens qui vont peut-être aussi proposer aux personnes qui sont le moins démunies la possibilité d'un hébergement, ainsi de suite. Tout ça sont toutes les dimensions nécessaires qu'il faut articuler.
Vous parlez également des problèmes psychiatriques. Vivre à la rue, ça vous rend fou, quoi. Est-ce qu'on peut le dire, ça ?
Oui, bien sûr.
Ça
bien
rend
sûr.
Fou, quoi.
Alors,
parce que c'est violent. La rue, c'est violent. La nuit, la peur,
bien sûr.
Le froid, mais également les canicules. Et c'est
et
la misère.
Ouais,
c'est la misère totale.
La déshérence, la misère. En fait, on estime que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a au moins un tiers des personnes qui sont à la rue
qui souffrent de problèmes psychiques.
Voilà. Alors, les problèmes psychiques, encore une fois, c'est un spectre qui est un éventail très large. Il peut y avoir de la dépression, mais ça peut aller jusqu'à ce que Jean Furtos appelle, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé, qui a monté aussi une espèce de courant de pensée qu'on appelle la clinique psychosociale. Jean Furtos appelle ça le syndrome d'auto-exclusion. Ce sont quand des personnes qui ont des troubles psychiques importants et qui ont 10 ou 15 ans de rue sont dans un effondrement psychique, c'est-à-dire ils sont en pleine inhibition intellectuelle. Ils ont désappris finalement tout ce qui les caractérisait comme un humain socialisé. Certains sont totalement incohérents dans la parole, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus compter, vous voyez. Et en même temps, ils n'ont plus de conscience somatique de leur problème. On voit des gens qui ont une jambe gangrénée qui n'en souffrent pas.
Ils n'en souffrent pas.
Et Jean Furtos dit bien que il appelle ça le clivage du moi, c'est-à-dire comme si la psyché s'était partagée en deux. Et que la psyché de la personne avait laissé de côté ce qui pourrait le faire souffrir énormément. Il dit, c'est souffrir de ne pas souffrir. C'est bon, je veux pas aller trop loin dans cette idée, mais donc là, on a vraiment des gens qui sont au bout du bout. Il est très très difficile de pouvoir aider ces personnes à revenir vers du soin et vers une dynamique sociale qui vraiment le rétablisse. On parle aussi beaucoup de rétablissement.
Oui, en tout cas, de restaurer. Oui, Patrick Leclerc. Oui.
Patrick Leclerc en parle beaucoup dans Les Naufragés, avec des hypothèses qui sont différentes de celles de Jean Furtos, mais il dit que des gens sont vraiment au bout du bout. Donc les troubles psychiques à la rue, ils sont très courants. Vous disiez tout à l'heure, la rue rend fou. Alors il y a des gens qui disent, c'est aussi parce qu'ils étaient fous avant qu'ils sont tombés dans la rue. Il y en a une partie, oui. Mais oui, la rue rend fou. La misère, ça aide pas les gens à garder une psyché équilibrée. La misère, les addictions, qui sont extrêmement répandues. N'oublions pas que l'alcool va aussi produire des dégâts considérables.
Considérables,
voilà. Et je dis l'alcool parce que l'alcool est le toxique le plus pratiqué. Hein. Après, tous les autres toxiques sont là aussi, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, les relations de groupe qui à la fois structurent, parfois aident les gens à ne pas être trop seuls et trop isolés. Hein. On le dit bien dans le chapitre santé, notamment avec l'article de l'équipe mobile de sociale et de santé de Toulouse. Mais qui en même temps peuvent être des groupes toxiques dans lesquels on va reproduire les mêmes dynamiques psychosociales, c'est-à-dire les phénomènes de violence vers le plus faible, de bouc émissaire, d'exclusion, de rapport d'influence, de pillage, de bagarre, vous voyez. Et donc des groupes qui sont parfois des groupes destructeurs, et quand vous vivez ça pendant 5, 10, 15 ans, là, on a des personnes qui sont vraiment dans un état psychique extrêmement délabré.
Et ce sont des gens qu'on arrive à orienter quand même vers les hôpitaux psychiatriques à Toulouse, Marchand ou autres, où on a du mal à faire ça. Est-ce que vous avez des chiffres en tête?
Alors, des chiffres, non.
Non.
Des chiffres, moi, je n'en ai pas.
Non.
Alors, on s'est habitué un petit peu dans le travail social, dans le médico-social aussi, mais beaucoup plus dans le travail social et surtout dans le travail social à destination des plus grands précaires, on s'est habitué, et je dirais malheureusement, à voir que les résultats sont largement en dessous de nos espérances. Voilà. Parce que quand on veut s'engager dans le travail social, on a toujours des espérances. On a les espérances simplement que les gens se rétablissent un peu, qu'ils vivent comme ils veulent vivre. Hein. Si certains sont mieux à la rue que sous un toit, mais qu'ils y trouvent quelque chose d'équilibré, dans lequel ils ont une certaine autonomie, un certain rapport aux autres pacifié, pourquoi pas, hein. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'habitue à ce que nos résultats soient en dessous de nos espérances, je disais. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, avec les personnes les plus abîmées, il est extrêmement difficile de les faire revenir vers un parcours de soins, vers un parcours social. Mais n'empêche que, puisqu'on y arrive avec certains, et des gens comme Furtos, comme De Clercq, ou les gens que l'on rencontre ici sur Toulouse, peuvent nous en donner l'exemple. Et notamment, par exemple, dans l'article de l'EMSS, on voit bien qu'une personne qui a failli complètement dériver, hein, grâce à la présence continue du travail de l'équipe, qui lui sert finalement un petit peu de point d'appui, hein, eh bien, on arrive finalement à ce qu'il accepte un habitat et donc une forme de mise à l'abri. Donc là, ça nous rassure quand même sur la possibilité que ça arrive et ça encourage à continuer ce travail exigeant.
Le possible peut arriver.
Exactement.
Et c'est pour cela que les travailleurs sociaux et travailleuses continuent. Hein. Donc il y a un peu d'espérance. Bien
oui,
que.
Il y en a toujours. Hein.
L'espérance de vie à la rue, c'est singulièrement réduit, quoi.
Les derniers chiffres que je connaisse, c'est 48 ans.
On vous rendez compte.
Voilà. Alors, ça 48 être ans, terrible. Parce qu'il y a du suicide aussi.
Bien sûr.
Parce qu'il y a des gens qui meurent à la suite de bagarres terribles. Hein, bon. Mais 48 ans aussi parce que les gens sont extrêmement abîmés. On voit des personnes de 50 ans qui ont l'apparence de personnes de 75 ou 80 ans, qui n'ont plus de dents, qui sont très, très, très abîmés physiquement et psychiquement, comme je le disais tout à l'heure, et qui malheureusement donc décèdent, hein, malgré les tentatives de soins.
Malgré les tentatives et les soins que l'on fait, très, très difficile. Je vous propose de refaire une deuxième pause. Alors, quelques jeunes artistes qu'il faut valoriser de la région, dont un en particulier qui manie le saxophone avec beaucoup de talent. C'est un jeune Félix Gibaud. Et je vous propose, c'était un peu universel, cosmopolite. On y va. Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Henri Santiago Sanz, le travail de rue aux éditions RS. Il faudrait qu'on parle un petit peu des MNA, des mineurs non accompagnés, qui sont souvent aussi à la rue, même s'il n'y a pas d'article précis, mais il y a un travail particulier. Oui. Est-ce qu'on peut aborder cette question? Est-ce que vous avez une expérience? D'ailleurs, c'est peut-être pour le prochain volume. C'est une invitation à écrire.
Mais voilà, mais c'est une invitation à écrire à tous ceux qui accompagnent les mineurs non accompagnés.
Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses. Il suffit de se promener parfois à la gare Batabio à Toulouse ou ailleurs, ou dans plusieurs gares.
Oui, bien sûr.
On voit bien que ces jeunes sont là, quoi.
Oui. Bon, alors... L'article que nous avons dans le livre concerne les mineurs de manière générale.
Générale, oui.
Et notamment avec cette expérience à Paris, là, dans le quartier des Halles, avec ces mineurs qui ne sont pas définis comme étant non accompagnés ou des mineurs du territoire. Hein. D'ailleurs, dans ce que la problématisation que nous proposons sur ce chapitre, nous disons bien qu'on aura tendance, quand on parle mineurs, à ne considérer justement, dans le travail social, à ne parler que des mineurs non accompagnés, alors qu'il y a aussi les mineurs du territoire qui traînent dans les parages. Mais pour revenir donc aux mineurs non accompagnés, oui, c'est une catégorie particulière. Et j'ai bien peur que dans les temps à venir, ça soit une catégorie de plus en plus présente. Et oui, puisque comme l'immigration actuellement est un phénomène mondialisé et qu'il y a énormément de personnes qui quittent leur territoire pour venir dans des pays qu'ils estiment être... Un peu plus solide du point de vue du social, ce qui est vrai d'ailleurs, pour la plupart du temps, on a déjà l'arrivée de beaucoup de mineurs non accompagnés qu'il va falloir prendre en charge. Alors, avec les mineurs non accompagnés, il y a cette polémique éternelle, sont-ils réellement mineurs, ne le sont-ils pas? Bon, il y a les services adéquats, normalement, qui doivent le déterminer, on ne va pas en parler. La particularité, c'est que ce sont des personnes qui viennent donc de notre continent, la plupart du temps, d'une autre culture, et que donc le style d'accompagnement est un accompagnement qui doit aussi...
Qui doit être également singulier.
Voilà,
et une formation spécifique.
Voilà, et des formations spécifiques. Alors, il y a des tas de gens qui, par le passé, par exemple, ont beaucoup travaillé sur la question de... Enfin, c'était l'ethnopsychiatrie. Je ne dis pas que les mineurs non accompagnés ont besoin d'un accompagnement psychiatrique, pas du tout. Mais il y a des gens qui s'intéressent à la culture d'origine pour voir comment on peut faire l'acculturation la plus intelligente pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Sinon, ils doivent être accompagnés, à mon sens, comme des mineurs ordinaires, c'est-à-dire des mineurs à protéger, à qui on doit trouver un abri, pour lesquels on doit instruire leur demande de titre de séjour avec justice, tout simplement, et avec justesse, voilà. Et puis, à qui on doit proposer les parcours sociaux les plus adéquats, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient en formation professionnelle, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a à la fois de l'originalité, mais en même temps, il y a aussi il y a un invariant là avec les autres mineurs qui ont besoin d'être
protégés. Oui, mais vous le dites assez justement. Oui. Il y a des mineurs non accompagnés, mais il y a des mineurs du territoire.
Voilà.
Et là aussi, ils sont nombreux parce qu'ils sont en rupture avec leur famille. Mmh. Et d'ailleurs, vous le dites également, il faut savoir construire un lien.
Oui, tout
qui
à
s'est
fait.
Perdu,
Avec les mineurs, il y a une situation qui est particulière. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de comment, avec les personnes qui ont de très graves troubles psychiques, il était très difficile de saisir... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les ramener vers une socialisation minimale, Eh bien, avec les mineurs, il y a encore une autre particularité et une difficulté spécifique. Parce que nous sommes confrontés finalement à des personnes qui doivent aller au bout de leur processus d'adolescence. Et là, moi, je pense à David Le Breton, par exemple, quand il parle des conduites à risque, vous savez. L'adolescence est un moment très particulier, nous le savons tous. Dans lequel il y a une espèce de moment intercalaire entre le moment de l'enfance et le moment du monde adulte, et dans lequel il y a des conduites à risque, une espèce de confusion psychologique sur ce que je veux être, une difficulté d'affirmation identitaire. Et quand ces mineurs, en plus, ont vécu des choses dans la famille qui sont de l'ordre de la maltraitance, ont fugué, se sont enfuis, se retrouvent, comme dans l'article c'est dit, dans le quartier des Halles, à ne pas trop savoir quoi faire de leur vie, sont pris parfois dans des relations de domination par les plus âgés, qui vont les manipuler éventuellement, certains même se font sadiser, ou les jeunes filles qui sont décrites comme étant difficiles à saisir comme des poissons, ils disent. C'est ça la formule. Voilà. Parce que, en même temps, ces mineurs qui sont à la rue jouent à être à la rue, pour certains d'entre eux. Ils vont rigoler en faisant une espèce de mise en scène devant McDonald's, en faisant la manche. Ils n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent quand ils se mettent tout à coup en situation de surdose toxique. Hein, voilà, et qui finissent aux urgences. Voilà. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et il faut à la fois les laisser arriver au bout de leur processus d'adolescence et en même temps faire le nécessaire pour qu'ils soient le moins en danger possible et trouver peut-être une clé pour, avec ceux qui sont d'accord, bien sûr, les ramener un peu vers le milieu familial lorsque celui-ci n'est pas toxique, ou pour les amener vers un parcours de socialisation, je dirais, le plus ordinaire possible.
Parlons maintenant, Monsieur Santiago Sanz, de la formation. Est-ce que la formation actuelle des moniteurs éducateurs spécialisés, pourrait-on dire calibrée, il y a des modules, est-ce que les formateurs ou enseignants ou chercheurs abordent cette question du travail de rue? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que les jeunes diplômés ou futurs diplômés ils vont être sur le marché du travail social, vont vers les associations de travail de rue?
Oui.
Votre expérience de
formateur. Oui. Alors, bon, moi, je suis retraité depuis 2018, mais je pense que la tendance continue aujourd'hui à peu près de la même manière. Il y a une minorité forte, quand même, tant dans les formations de moniteurs éducateurs que d'éducateurs spécialisés, celles que j'ai pu fréquenter, donc, pour aller vers le travail de rue. Il y a même, je dirais, un certain attrait vers les populations les plus en difficulté, la précarité, parce que les jeunes étudiants, éducateurs spécialisés notamment, ont une espèce d'attirance, qui est une attirance assez complexe, vers les personnes qui sont en situation de grande marginalité. Et beaucoup d'entre eux même ne désirent pas travailler dans les institutions, qu'ils trouvent trop calibrés presque.
Ça veut dire quoi? Qu'ils cherchent une certaine liberté?
Voilà. Ils cherchent une supposée liberté, parce que je ne sais pas s'ils vont la trouver. Mais ils cherchent une certaine liberté. Ils cherchent aussi un espace, c'est-à-dire ne pas avoir des murs autour d'eux. Et ils pensent aussi peut-être qu'ils vont être dans un cadre d'exercice du métier peut-être plus souple. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait le cas. Mais donc, ils y vont spontanément. Alors, beaucoup ensuite en reviennent. Je dis beaucoup, mais je ne sais pas combien.
Vous ne savez pas.
En reviennent parce que la violence du travail avec les personnes à la rue est telle qu'on se met énormément à l'épreuve. Vous avez vu que dans le petit article dans lequel on problématise la question de la formation des travailleurs sociaux, le tout début de notre problématisation, c'est comment, en fait, la formation est une véritable mise à l'épreuve émotionnelle. C'est-à-dire, elle exige une transformation de soi. On arrive avec des certitudes, parfois avec des convictions, et puis on se prend le terrain dans la figure.
On se frotte au réel de façon difficile.
Et on vacille. Et on se rend compte qu'on n'est pas si solide que ce qu'on pensait. On est obligé de remanier un certain nombre de choses. Parfois, il faut un peu de temps pour y arriver. Certains y arrivent, insistent, s'acharnent. D'autres se réorientent. Il y en a même qui quittent le métier parce que le métier est trop dur pour certains. Mais je reviens maintenant à la deuxième partie de votre questionnement. Oui, les écoles de travail social proposent des modules. Parfois, c'est des modules spécifiques. Parfois, c'est dans le cadre d'autres modules thématisés dans lesquels on va rencontrer, on va faire venir les gens du chez soi d'abord, les gens de l'équipe mobile sociale de santé, les gens qui animent les lieux d'accueil à seuil de très basse exigence, vous voyez. On fait venir aussi des travailleurs pairs. On n'en a pas parlé tout à l'heure, on parlait de bénévoles.
Oui, vous avez un article également sur...
Dans le bénévolat, on l'associe aux travailleurs pairs, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes ont vécu à la rue et qui se sont rétablis et deviennent progressivement des salariés,
viennent s'adosser
aux professionnels qui ne sont que finalement des gens qui n'ont pas vécu le travail de rue, ne sont que des théoriciens finalement, et viennent complémenter le travail. Donc, on fait venir tous ces gens dans les centres de formation pour qu'ils viennent parler. Et surtout, nous avons cette chance. Moi, je pense que c'est une chance inouïe. Par exemple, pour moi, c'est mieux que ce qui se passe en Catalogne ou en Espagne. Nous avons des temps de stage très longs dans nos formations. Nous avons beaucoup plus de temps de stage que de temps théorique. Et comme le dit si bien Robert Bastien dans l'article sur la formation, qui, lui, travaille au Québec, le travail de rue s'apprend essentiellement au contact des gens dans la rue.
Il faut être au terrain. La vérité vient du terrain.
La vérité vient du terrain. Ouais. Hein, voilà. Ou en tout cas, une grosse part de vérité vient du terrain. Après, on a aussi besoin de la réflexion théorique, des groupes d'analyse de la pratique, vous voyez, des supervisions, de la rencontre des auteurs qui ont beaucoup écrit sur le travail de rue. Voilà, on a besoin de tout ça. Mais ça se fait. Par contre, je pense que ça pourrait se faire de manière plus intense, peut-être. Cela dit, une formation de travailleur social et une formation généraliste. Il faut voir le travail de rue, mais il faut voir aussi l'autisme, il faut voir le travail avec les femmes, il faut voir...
Le logement,
c'est compliqué de tout mettre.
Le temps passe vite, c'est passionnant, va falloir conclure. Mais alors, votre conclusion, alors parfois vous avez des phrases, la conclusion...
Alors dites-moi.
Le travail de rue sert à contrôler et à récupérer ceux qui échappent au système. Et là, vous me citez, bien entendu, Michel Foucault sur surveiller et punir. Est-ce que ça sert à ça, le travail de rue?
Non, bien sûr.
On va quadriller, c'est ça?
Bien sûr que non.
Vous provoquez quand même. Hein.
Non, oui, bien sûr. Alors, on le fait, c'est-à-dire que ces phrases qui sont en italique, que j'essaye de retrouver...
Page 247, page 246, voilà, vous dites ça. Hein.
Les phrases qui sont
en... L'éducateur est un flic. Hein, est-ce que... Point de suspension.
Ouais.
Non, c'est pas ça.
Bien sûr que non. Les phrases qui sont en italique, nous avons voulu les reprendre de ce que certains disent.
Bien sûr.
De à quoi servent les travailleurs sociaux.
Voilà, d'ailleurs, vous le dites, le travail de rue, c'est une rustine sur une jambe en bois.
Voilà.
Et ainsi de suite.
Il y en a qui disent... Là, on est du côté des activistes, on va dire les révolutionnaires. Ils disent le travail social, c'est le bras droit du capital parce que en fait, vous compensez les grandes inégalités sociales que vous ne combattez pas. Vous voyez,
voilà.
Alors que ce n'est pas vrai, justement. Les travailleurs sociaux combattent les grandes inégalités sociales, mais dans le même temps. Ils font ce qui est nécessaire pour que des gens ne sombrent pas trop.
Dans l'immédiat, Dans l'immédiat, il faut trouver une solution.
Il y a le par défaut dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Hein, voilà. Donc, après, vous aviez dit...
On pourrait dire qu'à la façon de Jean-Paul Sartre, parfois il faut se salir les mains, il faut trouver des solutions de suite, de façon très pragmatique. Quoi.
Exactement.
Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis, dans la mécanique pour trouver des solutions.
Je pense que ce n'est pas très, très difficile, conceptuellement, de concevoir que l'on puisse articuler... La question d'intervenir au jour le jour pour faire en sorte que les gens ne meurent pas, mais qu'en même temps, on puisse interpeller les pouvoirs publics, y compris avec des actions d'activistes très fortes de plaidoyer, pour qu'on avance vers une société plus égalitaire. Voilà.
Vous allez présenter votre ouvrage très prochainement dans une librairie toulousaine, on peut la citer ?
Oui, Ombre Blanche.
Quel jour ?
Le samedi 3 mai à 20h30.
Bon, on invite bien entendu tous les Toulousains, tous les Occitans de la région, s'ils veulent venir, vous présenterez avec vos deux comptes.
Non, malheureusement, je serai tout seul.
Vous serez tout seul ?
Oui.
Donc vous êtes le digne représentant.
Mais je ne serai pas seul parce que les quatre équipes de Toulouse qui ont écrit seront là et partageront, je vais le mettre en œuvre avec eux, et partageront le temps de débat.
Merci, monsieur Santiago Sanz-Henri, d'avoir accepté mon invitation. Très beau livre, Le travail de rue, édition RS, 15 euros. Donc, 15 euros, c'est une modique somme, mais le travail intellectuel coûte. Et donc, il faut aller l'acheter. On invite tous les travailleurs sociaux à acheter ce livre, venir vous écouter et écouter, bien entendu, Sentinelle d'Humanité. Mille merci.
Merci, monsieur Atenza, de votre invitation.